Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Depuis l'adoption mercredi d'une nouvelle loi sur le travail, plusieurs milliers de Hongrois protestent dans les rues de Budapest contre ce texte qualifié de loi esclavagiste par ses opposants. Dimanche, ils étaient 15 000 à manifester dans les rues de la capitale, des Verts à l'extrême droite sous la même banderole. Cette unité des forces d'opposition ne s'était jamais produite depuis le retour au pouvoir de Viktor Orban en 2010. Les manifestants dénoncent la libéralisation du marché du travail, les entorses à l'état de droit et les atteintes à l'indépendance de la justice et des médias. Ces mobilisations sociales pourraient-elles marquer un tournant dans le mandat de Viktor Orban? Et tout d'abord, ce mandat, sous quels auspices s'est-il ouvert? Comment en est-on arrivé là? Et pour, en quelque sorte, vous restituer la totalité du film, nous sommes en compagnie de Paul Gradvol. Bonjour, vous êtes historien, maître de conférence à l'Université de Lorraine et spécialiste de l'Europe centrale. Tout d'abord, quelques mots sur le pouvoir conquis par Viktor Orban, les conditions qui lui ont permis d'accéder au pouvoir et les dominantes de sa politique, Paul Gradvol.
Bonjour. Je vais reprendre dans l'ordre. Le pouvoir acquis en 2010 l'a été à la suite d'une campagne électorale dont le thème majeur était la lutte contre la corruption. Et sur fond de crise financière de 2008 telle qu'on l'a connue en France, sans doute plus grave en Hongrie car le pays était déjà assez lourdement endetté. Depuis, que s'est-il passé? Viktor Orban a fait changer la Constitution. Il a ensuite modifié la Constitution qu'il avait lui-même fabriquée ou fait fabriquer. Et le grand tournant auquel on assiste aujourd'hui et qui est tout à fait intéressant, c'est que même sur la base de règles qui ont totalement été fabriquées par lui et sa majorité, il vient d'être reconduit donc pour 4 ans, ça ferait 12 ans s'il reste jusqu'au terme normal des cycles électoraux hongrois, eh bien ce qui vient de se passer, c'est que pour passer une loi sur finalement le droit du travail et la façon dont on calcule et on paye les heures complémentaires. Alors, pour que nos auditeurs comprennent, il s'agit de dire qu'on peut calculer les heures complémentaires sur plusieurs années. Donc, si sur une année, on vous fait faire 350 heures complémentaires, que l'année suivante, l'entreprise n'a pas de commande, etc., en fin de compte, on ne vous paiera pas d'heures complémentaires. Et de toute manière, on peut vous les payer 3 ans plus tard.
Bon, une mesure qui est effectivement spécifique, on l'a dit, inspirée par l'industrie allemande.
Alors, c'est ce qui a été avancé par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur hongrois. Et soudain, on s'est rendu compte que finalement, la Chambre de commerce et d'industrie allemande, germano-hongroise, disait que pas nécessairement. Autrement dit, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que le gouvernement Orban, depuis 2010, se présente comme le défenseur de la population contre les trusts internationaux. Et aujourd'hui, au contraire, il invoque ceci pour justifier cette mesure.
Alors, ça n'est quand même pas complètement une surprise pour ceux qui connaissent le trajet de Viktor Orban, parce que, si vous me passez l'expression, c'est un drôle de zèbre. Cet homme a tout d'abord été un ultralibéral.
Un ultralibéral, c'est sûr. Il a d'ailleurs été formé, en partie en Angleterre, en 88-89, payé par George Soros.
Alors, comment cela se fait-il que cet homme, aujourd'hui, incarne non pas l'ultralibéralisme a priori, ensuite il faudra y regarder de plus près Paul Gradvol, mais en tout cas incarne en quelque sorte l'idéal type du populiste en Europe, s'est servi de la crise des migrants, parce qu'il faut rappeler là aussi dans quelle mesure cette crise des migrants a été une manière pour lui de se hisser au pouvoir en Hongrie, Paul Gradvol.
Alors, il était déjà au pouvoir, puisque là on est en 2015, c'est pour se consolider. idée. Et encore aujourd'hui à la télévision, face aux protestations, il indique que c'est George Soros qui est responsable, comme pour la crise des migrants. Alors, ce qui est passionnant, et il faut le faire comprendre sans doute, c'est que la Hongrie est quand même le seul pays qui a prouvé qu'elle n'avait aucun problème d'accueil des migrants, puisque ont traversé à pied plusieurs centaines de milliers de migrants ce pays, sans s'y arrêter. Donc, pour un pays qui devrait être colonisé par l'islam, lui-même financé par le juif qu'est George Soros, c'était la preuve que le risque était minime. Et malgré tout, mais c'est lié au contrôle des médias, Viktor Orban a utilisé cette vague migratoire qui a très très peu concerné la Hongrie de fait, pour asseoir une peur encore plus forte dans un pays qui a toujours eu conscience de son statut minoritaire, ne serait-ce qu'à cause de sa langue, qui est très isolée dans la région, et surtout le culte de cette spécificité culturelle présentée depuis le 19e siècle, voire plus tôt, comme la preuve d'une espèce de menace contre les Hongrois.
Les défenseurs d'Orban, il en a aussi en France d'ailleurs, des défenseurs, puisque quelques républicains, quelques membres du parti Les Républicains considèrent que ce monsieur mène une politique tout à fait respectable. Viktor Orban et ses défenseurs disent que la Hongrie est un pays qui n'a jamais été très ouvert vis-à-vis de l'extérieur et que ce pays a le droit de conserver son identité. Vous qui êtes spécialiste de cette région du monde, Paul Gradwall, qu'en pensez-vous ?
Alors, c'est intéressant parce que, vu historiquement, ces propos sont une absurdité étonnante. Je le rappelle, avant 1914, il y avait dans le territoire du Royaume de Hongrie à peu près une moitié de Hongrois pour une moitié de non-Hongrois.
Qui étaient ces non-Hongrois ?
Des Roumains, des Slovaques, des germanophones, qu'on appellerait aujourd'hui peut-être Autrichiens ou Allemands, des Serbes. Tous les peuples de la région, sans parler des Arméniens, le cas des Juifs étant à part, puisqu'ils se sont hongarisés ou madiarisés entre la fin du 19e et le milieu du 20e, avant la grande vague d'extermination, bien sûr.
Donc, un pays qui était déjà ouvert, toujours parmi les arguments de ceux qui défendent Viktor Orban. On sait à quel point George Soros a été instrumentalisé, à quel point son image a été brandie par le régime pour tenter de créer, alors pour les uns, un bouc émissaire, pour les autres, un ennemi réel. Mais là aussi, on dit que Soros a financé un certain nombre d'organisations de l'opposition. Bref, que ça n'est pas de l'infox de considérer que Soros et ses différentes associations, les différentes associations qu'il finance, ont eu un rôle en Hongrie.
C'est très intéressant de voir que la campagne contre Soros a commencé aux alentours de 2015. George Soros est présent en Hongrie depuis 1984. Visiblement, ça n'a pas empêché la Fidesz d'être au pouvoir de 98 à 2002.
Le parti d'Orban.
Et de 2010 jusqu'à nos jours. Pourquoi est-ce qu'en 2015, soudain, George Soros serait devenu, alors qu'il est quand même vieillissant, je crois qu'il a dépassé les 85 ans et qu'il a d'autres choses à faire dans la vie, pourquoi serait-il devenu une menace ? Ça, personne ne réussit à l'expliquer.
Et vous ? Est-ce que vous réussissez à comprendre qu'est-ce qui a donné l'idée à Viktor Orban, si on considère que tout cela est plutôt illusoire ? Qu'est-ce qui a donné à Viktor Orban l'idée d'utiliser sa figure comme repoussoir ?
Alors, ce que je peux dire, c'est que Viktor Orban n'est pas le seul à avoir eu cette idée. Un peu avant la grande campagne, par exemple, contre l'université et contre le fait qu'il y ait des fondations relevant de George Soros qui soient installées en Hongrie, la presse russe avait lancé les choses, annonçant qu'en Hongrie, on allait bientôt protester contre la présence de George Soros, ce qui est quand même tout à fait intéressant.
On a tellement bien protesté, d'ailleurs, que l'université Soros, dite Soros, a aujourd'hui fermé. C'est la première fois qu'une université ferme en Europe depuis 1943.
1943,
c'est une souvenir. Mauvaise date. Aujourd'hui, la situation est désormais compliquée pour les médias. Hongrois, qu'est-ce qui se passe là-bas, Paul Gradwall ?
Ah ben, là encore, c'est très, très innovant. Ça, ça n'avait même pas existé dans les temps antérieurs, je crois. Plus de 400 médias ont été fondus sous la coupole d'une fondation qui relève de deux avocats qui sont des proches de M. Orban. Et une partie de ces médias se sont même donnés à cette fondation. Donc imaginez demain matin que le propriétaire du Figaro, du Parisien et de La Croix donnent leur organe de presse à une fondation proche de, nous ne dirons pas qui... comme ça, par simple générosité.
C'est de la générosité, effectivement. Et les médias d'État ?
Les médias d'État, que j'ai eu le plaisir de consulter ces derniers jours, m'ont rappelé des choses que je n'avais pas vues dans les médias hongrois depuis la fin des années 70, le début des années 80.
Comment qualifier aujourd'hui ce mouvement, le mouvement donc incarné par Viktor Orban ? Populiste, c'est un mot qui est très large. Comment pourriez-vous le caractériser et voir finalement qu'est-ce qui constitue aujourd'hui l'essence de son pouvoir, Paul Gradvol ?
Si on prend des caractérisations internes et sociologiques, je pense que c'est peut-être ça qui nous intéresse ici d'abord, c'est un mouvement qui est passionnant parce que il s'appuie sur des éléments assez différents. D'une part, le renouveau de la tradition, de la soumission aux autorités, un peu comme aux notables en France, au XIXe siècle, qui est une tradition qui a été très très forte, notamment sous Horthy, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc en province, des réseaux extrêmement denses de gens qui décident d'à peu près tout ensemble et on respecte ce type de pouvoir des notables. Ça a été renforcé par Orban. D'autre part, une corruption hyper moderne, y compris le détournement des fonds européens. Je rappelle que...
Qu'est-ce que c'est une corruption hyper moderne ?
Bah, d'abord, pour ça, il faut avoir, par exemple, en Hongrie, des fonds qui arrivent de l'Union européenne, ce qui est très moderne. Et d'autre part, il faut pouvoir les détourner en détournant les procédures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, parmi les mesures qu'impose le gouvernement, il impose la transformation des procédures judiciaires pour lutter contre la corruption, et notamment la corruption avec les fonds européens, afin de pouvoir continuer à faire à peu près ce qu'il veut. Et les manifestants, parmi les cinq grandes revendications qu'ils ont l'adoption par la Hongrie du statut du procureur européen pour que justement l'Europe puisse exercer la justice. Et pour dire à quel point la justice aujourd'hui est un vrai problème en Hongrie, il y a eu un accident de bus en Italie à Vérone il y a quelque temps et aujourd'hui les parents, il y a deux jours à la télévision, les parents qui est interviewé par une télévision proche de Orban ont exigé que ça soit la justice italienne qui traite le dossier et pas la justice hongroise parce qu'ils n'avaient pas confiance.
Donc on voit effectivement un certain nombre de choses qui sont assez caractéristiques de ces nouvelles formes de démocratie. Je ne sais pas quel terme vous souhaiteriez employer à ce sujet, Paul Gradvol. Et il y a aussi quelque chose d'extrêmement caractéristique dans le rapport que la Hongrie, le pouvoir hongrois, entretiennent avec le passé de la Hongrie.
Nous sommes revenus à une période fort intéressante pour les historiens où ils ne savent pas de quoi hier sera fait demain. C'est quand même la règle. Donc, par exemple, sur quelque chose d'aussi important depuis des décennies pour la Hongrie, à savoir l'insurrection de 1956,
eh bien... C'est-à-dire l'insurrection...
Alors, l'insurrection de 1956, vous vous souvenez, Staline est mort le 5 mars 53. Le 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique se réunit en février 56 en disant que finalement, Staline n'avait pas été très gentil. Ça a des échos dans les différents pays frères, entre guillemets, les pays du bloc socialiste. Et en 56, révolte populaire contre la direction du parti en Hongrie, manifestation... Première intervention des soviétiques à la fin octobre. Deuxième intervention définitive entre le 4 et le 7 novembre 1956. Et là, on établit un nouveau pouvoir avec des nouveaux dirigeants, mais fidèles à l'Union soviétique, qui ensuite auront leur propre évolution. Ce pouvoir est connu sous le nom du principal homme qui en est sorti, Janosch Kadar. Donc 56, c'était un mouvement de gloire et de résistance, traditionnellement pour la Hongrie, qui impliquait notamment l'ancien Premier ministre qui a été établi pendant cette époque, qui était certes communiste, mais c'était Imre Nagy Nagy en français. Aujourd'hui, parler d'Imre Nagy, c'est de parler de quelqu'un qui est totalement décrié. Et tout ce qu'on retient de 56, ce sont les jeunes révolutionnaires qui avaient entre 14 et 18 ans qui ont pris les armes de façon plus ou moins suicidaire, ce qu'on peut comprendre par ailleurs. Y compris, on met en avant un de ces jeunes qui, en fait, n'était pas du tout l'homme qu'on prétend qu'il est, les historiens le savent. Malgré ça, Viktor Orban, personnellement, pour soutenir ses historiens favoris, continue à prôner le culte de cette personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir qui décide du passé, c'est comme ça qu'il l'entend. Et pour donner une idée de l'importance de ce genre de phénomène, il est question aujourd'hui de donner, non pas aux archives nationales hongroises, mais à un institut fondé par M. Orban et qui s'appelle l'Institut Veritas, mot latin que tout le monde comprendra.
C'est un bureau de contrôle en France.
Voilà, mais ça devrait devenir la même chose, rassurez-vous. Confier les archives du gouvernement à ce nouvel Institut Veritas.
Cet enjeu historique, alors, ça c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. C'est fréquent aussi en Pologne, Paul Gradwohl.
C'est plus que fréquent. C'est une des règles en Pologne. Il s'agit... Alors, dans la Pologne, le cœur, le nœud des affaires, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il s'agit de transformer le récit de la Deuxième Guerre mondiale en récit de l'équivalent de ce qu'a fait l'Union soviétique avec la Grande Guerre patriotique, sauf que ce serait la Grande Guerre patriotique polonaise. Donc, le musée d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été créé à Gdansk, ouvert en 2016, qui est un endroit absolument extraordinaire que je conseille à tout le monde, sauf qu'il faut y aller très très vite parce qu'on déconstruit ce musée et on enlève une partie de l'exposition permanente. Ce musée doit être transformé en musée de la guerre polonaise.
Comment expliquez-vous cette utilisation de l'histoire, cette réécriture, puisqu'il faut employer le terme qui convient, ou le toilettage, si vous souhaitez un terme plus euphémisé? Comment l'explique-t-on, Paul Gradwohl?
Par l'idée, l'obsession du contrôle du passé de ces élites politiques qui veulent avoir une espèce de préséance morale qu'ils ne peuvent obtenir dans une optique nationaliste que par le contrôle du passé. Il n'y a que ça qui peut leur donner ce qu'ils estiment être une légitimité absolue. Ils doivent s'inscrire dans une histoire nationale qui indique le futur qu'ils souhaitent. Donc il est vraiment nécessaire de réécrire le passé.
Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Nous retrouvons Paul Gradwohl, il est historien spécialiste des pays de l'Est, où un phénomène que l'on va qualifier par défaut de populiste se répand. Il est notamment incarné en Hongrie par Viktor Orban. Et puis nous sommes en compagnie d'un constitutionnaliste que je salue, Dominique Rousseau. Bonjour,
bonjour.
Dominique Rousseau. Votre point de vue sur ce fameux, désormais fameux, référendum d'initiative citoyenne?
Mais comme vous venez de le dire à l'instant, c'est une réaction à la forme ultra représentative de notre démocratie. Depuis 1789, nos démocraties fonctionnent sur le principe représentatif qui s'énonce de manière très simple. Les citoyens sont compétents pour élire leurs représentants, mais après ils doivent se taire afin de permettre aux représentants de parler. Sieyès disait, le peuple ne peut parler et agir que par ses représentants. Et donc ce qui est en cause aujourd'hui, mais c'était déjà en 2005, en 95, en 86 avec De Vaquet, en 1968, et bon, ce qui est en cause aujourd'hui, c'est que la forme représentative, au nom d'eux reste, si vous voulez, la grammaire de l'action politique. Et aujourd'hui, les citoyens veulent parler, veulent décider eux-mêmes, alors à côté, contre, sans leurs représentants. Et le référendum d'initiative citoyenne a été compris comme un instrument permettant aux citoyens de réintervenir à la place des représentants ou à côté dans le mode de fabrication des lois. Est-ce que c'est le bon instrument? J'en suis pas sûr.
Expliquez-nous pourquoi, alors, pourquoi vous n'en êtes pas sûr. Alors d'abord, quelle forme cela peut prendre? Parce que Frédéric a expliqué quelle forme cela pouvait prendre si on décalquait cela à partir de la formule suisse. Laquelle formule est une formule particulière? Il en existe d'autres.
Alors, il en existe d'autres. Et c'est les formules pratiques de ce référendum d'initiative citoyenne dépendent de la réponse que l'on fait à trois questions. La première, c'est qui déclenche? Quel est le seuil de déclenchement de la procédure? Est-ce que c'est 200 000, 500 000, 800 000, 2 millions? Plus le seuil est bas, plus vous faites du référendum un instrument d'usage régulier et facile. Première question, le seuil. Deuxième question, le domaine. Est-ce que les citoyens auront la possibilité de demander des référendums sur n'importe quel sujet? L'annulation de la dette, l'abrogation de la loi sur le mariage entre personnes du même sexe, le retour à la peine de mort, la sortie de l'Union européenne, le retour de l'impôt sur les grandes fortunes. Est-ce qu'ils pourront poser des questions sur n'importe quel domaine, ou au contraire, est-ce que certains domaines leur seront interdits? Par exemple, en Italie, où il y a aussi le référendum d'initiative citoyenne, et le seuil est de 500 000 citoyens. En Italie, on ne peut pas faire de référendum d'initiative citoyenne sur la fiscalité, sur le budget et sur la ratification des traités internationaux.
Donc, mais on peut amender la Constitution.
Et on peut amender la Constitution. Un exemple. En 2013, en Croatie, dans la Constitution croate, il est prévu que si 700 000 électeurs demandent un référendum, ce référendum est obligatoire. Il y a une pétition qui a été signée par 700 000 électeurs pour ou contre le mariage pour tous. Et les Croates, par référendum, ont dit non au mariage entre personnes de même sexe. Bon. Donc, la question du domaine est très importante. Est-ce que l'initiative peut porter sur tous les domaines, la révocation des élus, la révision de la Constitution, l'abrogation des lois, la proposition des lois? Si c'est sur tous les domaines, vous voyez, comment dire...
Le champ est vaste.
Le champ est vaste, comme dirait Raffarin. Et donc, la troisième question, donc le seuil, le domaine et la portée. Alors la portée, c'est certainement la question la plus intéressante par rapport à la signification populiste ou démocratique de cet instrument. La portée, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les lois votées par les parlementaires sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, qui doit vérifier si les lois votées par les parlementaires respectent la Déclaration des droits de l'homme, le préambule de 46, la Charte de l'environnement, bref, les droits de l'homme. Or, aujourd'hui, les lois votées par le peuple ne sont pas soumises à l'obligation de respecter les droits de l'homme. Autrement dit, le référendum d'initiative citoyenne pourrait être un moyen de contourner l'obligation de respecter les droits énoncés dans la déclaration de 1789. Et là, on va vers le populisme. Dans la mesure où le respect des droits de l'homme, comment dire, si vous voulez le respect des droits de l'homme, votre téléphone, là, vous avez un code d'accès. Et si vous perdez le code d'accès, vous ne pouvez pas téléphoner. Les droits de l'homme, c'est le code d'accès à la démocratie. Si vous oubliez les droits de l'homme, si vous n'obligez pas à respecter les droits de l'homme, vous ne pouvez pas rentrer dans la démocratie.
Je pensais que vous alliez rajouter un quatrième point qui était la manière d'utiliser ce référendum. Est-ce que, par exemple, on vote en allant dans un bureau de vote? Est-ce qu'on vote par Internet? Ou est-ce que le fait de demander ce référendum peut se faire directement par Internet? Tout cela n'est pas complètement indifférent.
Tout ça n'est pas complètement indifférent. La formule classique actuellement, c'est de se déplacer dans les mairies ou les écoles pour aller voter. Rien n'interdit. Il y a quelques expérimentations qui ont été faites. Rien n'interdit le vote électronique, mais il faut que ça soit très sécurisé, parce que évidemment il y a des possibilités de fraude.
Et la réunion des signatures?
Alors pareil, la réunion des signatures, il faudra qu'il y ait un contrôle pour vérifier qu'une même personne ne signe pas trois fois, par exemple.
Bien entendu, mais est-ce que d'ores et déjà, dans certains pays, cette signature demandant donc un référendum d'initiative citoyenne, est-ce qu'elle se fait par Internet?
Elle peut se faire par Internet, absolument. Oui, oui. On le voit déjà avec le parrainage pour les élections présidentielles, je veux dire, les parrains peuvent aussi s'exprimer, enfin parrainer par Internet.
Dominique Rousseau, vous qui êtes constitutionnaliste, si d'aventure on songeait à une formule ou à une autre de référendum de ce type, est-ce que cela modifierait sensiblement l'esprit de la Constitution de la Ve République ?
L'esprit de la Constitution de la Ve République, pas sûr, parce que l'esprit, si vous parlez de l'esprit de la Ve République, c'est le rapport direct entre le président et le peuple, en dehors des intermédiaires. Hein, c'est les référendums gaullistes ou gaulliens. Il s'agit de passer par-dessus le Parlement, par-dessus les syndicats, par-dessus les associations, pour qu'il y ait une relation directe entre le peuple et entre le peuple, entre la population, je fais une différence, et le chef de l'État. Si vous multipliez les référendums, vous avez un risque de mettre à l'écart les associations, les syndicats. Or, les associations et les syndicats sont, les institutions qui font vivre la démocratie. Et c'est pas un hasard si toute dictature commence par supprimer justement la liberté d'association et les syndicats pour avoir ce lien direct.
Vous avez un risque, en fait, de marginaliser, voire de supprimer les corps intermédiaires ?
Absolument, il y a ce risque-là qui est important et qu'on retrouve, je crois, qui est une des caractéristiques, vous en parlerez peut-être tout à l'heure, qui est une des caractéristiques du populisme qui, disons, s'inspire ou qui trouve une de ses inspirations dans un juriste allemand, nazi, Carl Schmitt, c'est-à-dire cette relation directe, cette incarnation. Hein, la population doit prendre corps dans le corps du chef. Et il faut rien entre le chef et la population parce que ça gênerait le contact, la relation.
Paul Gradvol, votre point de vue.
Bien, je remercie Dominique Rousseau d'avoir mentionné Carl Schmitt et la puissance de sa pensée. Il est régulièrement évoqué par les soutiens du pouvoir actuel polonais de façon très ouverte. Hongrie, il n'y a même pas besoin, mais c'est Orban lui-même qui explique que la faiblesse de l'Union européenne, c'est l'absence de pouvoir personnalisé et que lui est le modèle idéal d'homme politique parce qu'il sait représenter directement son peuple et il présente toujours les résultats des élections comme la manifestation de cette espèce d'identification à sa personne.
Mais alors, ce qui est caractéristique dans ces populismes à l'Est, Paul Gradvol, c'est qu'ils ne s'érigent pas en tant que contempteurs de la démocratie, mais au contraire, ils sont là où ils sont censés, où ils disent qu'ils veulent l'approfondir, la démocratie.
Alors, on peut revenir exactement sur ce qu'a dit mon partenaire de ce matin, à savoir que la démocratie, mais sans les droits de l'homme, puisqu'ils sont perçus comme une contrainte, exactement comme dans la logique qui a été évoquée ici, à savoir que la démocratie, c'est pouvoir décréter demain à peu près n'importe quoi, donc le rétablissement de la peine de mort, le non-respect de décisions de justice. La démocratie, c'est vu comme la possibilité de dénier à toute institution suivant des règles précises un fonctionnement normal. Ce qui a éclaté aujourd'hui autour du droit du travail et du paiement des heures complémentaires, pourquoi est-ce que ça a éclaté
en Hongrie, avec Viktor Orban qui tente d'aménager le droit du travail hongrois de telle sorte que celui-ci soit extrêmement permissif, je le dis en un mot.
Eh bien, ça s'est passé parce qu'au Parlement, la FIDESZ a décidé
d'organiser
le vote sans respecter la procédure où il faut des cartes électroniques pour voter. Autrement dit, le non-respect ouvert des règles fixées par la FIDESZ elle-même.
Dominique Rousseau.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois que c'est Viktor Orban qui a été un des premiers, pas le seul, mais un des premiers à mettre en avant la notion de démocratie illibéral. Et qu'est-ce que c'est qu'une démocratie illibérale ? Ben, c'est pas une démocratie du tout. C'est-à-dire, c'est une démocratie qui restreint, voire annule la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, la liberté universitaire, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir. Et il reste quoi ? Il reste le suffrage universel. Or, aujourd'hui, le vote n'est pas n'est pas le marqueur, pour parler comme les linguistes, de la qualité démocratique d'une décision ou d'une institution. En démocratie, il ne peut pas y avoir de souverain absolu. Le souverain absolu, c'est le despotisme. Alors, le peuple est souverain, mais précisément parce qu'il est souverain, il doit être limité. Sinon, nous sommes dans le populisme. Et c'est la limite. Et quelle est la limite? C'est l'obligation de respecter les droits de l'homme. Je parlais de la Croatie tout à l'heure. Le peuple vote l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe. En votant ainsi, le peuple porte atteinte au principe d'égalité entre les êtres humains, quelle que soit leur orientation sexuelle. Est-ce que le peuple, parce qu'il est peuple, a le droit de porter atteinte à l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'égalité selon les orientations sexuelles? Je pense que la démocratie, c'est le respect des droits fondamentaux et le fait que tout souverain doit être limité, sinon on n'est pas en démocratie, on est en régime despotique.
Mais alors, justement, parce que c'est une discussion importante sur le plan philosophique, sur le plan constitutionnel également, Dominique Rousseau, alors il y a une position, par exemple, qui est développée par un philosophe comme Jacques Rancière, et dans l'un de ses livres, La haine de la démocratie, il dit en substance que il y a quelque chose de suspect dans le fait de toujours redouter les excès de la démocratie, qu'il y a un discours antidémocratique.
C'est pas les excès de la démocratie qui est à redouter. C'est pas les excès de la démocratie. Là, on n'a pas assez de démocratie. Ce qui est à redouter, c'est l'excès de la souveraineté. La souveraineté, c'est foutez-moi la paix, laissez-moi faire ce que je veux. Bon, ça, je suis désolé, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est un équilibre des pouvoirs, c'est le respect des minorités, le respect de la pluralité des conceptions de vie. Qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble? C'est pas des clones, c'est pas d'obliger tout le monde à avoir la même conception de la famille, à avoir la même conception du travail, à avoir la même... C'est accepter la pluralité des conceptions de vie. Et c'est ça qui fait le vivre ensemble. Et vous ne pouvez accepter la pluralité des conceptions de vie que si vous mettez comme ciment le respect des droits de l'homme. Dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, les hommes de 89 ont dit attention, l'ignorance, le mépris ou l'oubli des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics. Quand on oublie les droits de l'homme, eh bien, on crée le malheur public, c'est-à-dire des régimes despotiques et ou populistes. C'est ce qui est en train de se passer, notamment dans les pays de l'Est.
Mais alors, je continue le dialogue que nous avions tout à l'heure avec Paul Gradvol, et je me fais, c'est compliqué, mais je vais essayer d'y arriver, je me fais l'avocat de Viktor Orban et de sa politique. Lui considère que le peuple a voulu un certain nombre de choses. Alors, par exemple,
la population, pas le peuple.
Quelle distinction faites-vous?
Ben, si vous voulez, je reprendrai une formule de... Enfin, je transposerai une formule de Simone de Beauvoir. Elle disait, vous connaissez la formule, on ne naît pas femme, on le devient. Je dirais, on ne naît pas peuple, on le devient. Le peuple n'est pas une donnée naturelle. Le peuple n'est pas spontanément peuple. Il faut un instrument pour construire le peuple. Alors, ça peut être la race, le peuple noir, le peuple jaune, ça peut être le sang. Pour moi, ce qui construit le peuple, c'est les droits fondamentaux. Les droits de l'homme, la Constitution construit... Enfin, est un des éléments, pas le seul. C'est pas parce que je suis juriste que je vais tout ramener à la Constitution, mais le peuple est Cicéron disait, la différence entre la multitude et le peuple, c'est l'accord sur le droit. La population, ce sont les gens. Et les populistes parlent des gens. Les démocrates parlent du peuple. Et le peuple, c'est une construction... c'est le résultat d'une construction par l'école, par l'histoire, par la presse, par la délibération, par la discussion. C'est ça qui fait la citoyenneté.
Mais alors, justement, dans ce discours qui est très classique et très ancien en France, qui notamment reprend par exemple la manière dont Montesquieu, dans l'esprit des lois, considère ce que doit être un régime démocratique, l'idée principale, Dominique Rousseau, c'est que finalement tout pouvoir doit être borné, même la vertu, dit Montesquieu d'ailleurs, doit être bornée. Est-ce que ça n'est pas une manière tout simplement libérale? Et si elle est libérale, c'est une idéologie et finalement on peut en choisir une autre.
Pourquoi vous dites libéral?
Libéral au sens philosophique du terme. Oui. C'est-à-dire que finalement, pour Montesquieu, tout est borné, tout pouvoir doit supposer son contre-pouvoir quand il dit dans l'esprit de
mais c'est
lois,
bien ça,
que même cette vertu doit être bornée, oui. On peut considérer par exemple que la vertu n'a pas de limite. C'est ce que pensaient par exemple Robespierre, Saint-Just.
Oui, oui, oui. Oui mais vous voyez, Robespierre, Saint-Just, bon, je ne suis pas sûr que ce soit des exemples de figures démocratiques.
Pour Paul Gradvol, peut-être pas, pour d'autres personnes.
Oui, évidemment. Mais y a, heureusement qu'il y a un débat sur. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau est considéré comme le père de la démocratie et comme le père de la dictature. Donc on peut faire des éternels débats. Je pense que la démocratie, c'est permettre à tout le monde de vivre ensemble, quelles que soient ses conceptions de vie, je le rappelais tout à l'heure. Et le droit a un rôle, à mon avis, dans cette possibilité de vivre ensemble. Si vous voulez... La Constitution, les droits de l'homme, c'est quoi ? C'est un réducteur ou un régulateur des passions. Empêcher les passions des gouvernants, empêcher les passions des peuples. Et c'est ça, je crois, qui fait la démocratie. Ce que Montesquieu cherchait, c'était de lutter contre le régime despotique. Et pour lutter contre le régime despotique, il disait pouvoir et contre pouvoir. Et pendant la Révolution, des gens comme Condorcet disaient attention, le despote, ça peut être aussi le despotisme du nombre, pas simplement d'un seul. Bien sûr, il y avait Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, il faut se méfier du tyran unique. Mais il peut y avoir aussi le tyran d'une majorité.
Mais si...
Et par conséquent, ce qu'il faut éviter, c'est la tyrannie, le despotisme, soit d'un seul, soit du nombre. Et vous le faites, justement, par l'obligation de respecter les droits de l'homme.
C'est une tradition, évidemment, respectable. On la voit chez Montesquieu, chez Tocqueville, chez Aron. Mais il existe également une autre tradition, par exemple, chez Marx, qui consiste à condamner ou critiquer, en tout cas, cette démocratie dite formelle. Alors, le principe marxiste ou le principe chez Marx consiste à dire bah, tout ça, c'est une illusion qui profite finalement aux forces bourgeoises ou à la classe dominante. Et vous parlez d'égalité formelle, c'est-à-dire comme s'il y avait un formalisme, mais réellement, les gens ne sont pas égaux. Si on prend, par exemple, cette crise des Gilets jaunes, eh bien, il y a beaucoup de demandes qui sont faites au nom d'une égalité véritable, le pouvoir étant censé être confisqué par une classe qui en profite pour son propre intérêt. Que peut-on répondre à cette critique,
alors,
Dominique Rousseau ?
La critique, on pourrait s'appuyer sur Claude Lefort. Claude Lefort a fait
un philosophe socialiste, mais né de la tradition antitotalitaire.
Socialisme et barbarie notamment, où Claude Lefort a, je crois, bien montré... Vous référez à Marx, notamment dans ce qu'il a écrit sur la question juive, où il analyse les droits comme étant des droits formels. Que nous dit Claude Lefort ? Claude Lefort nous dit les droits de 1789 ne sont pas des droits de la bourgeoisie, ne sont pas des droits de l'individu replié sur lui-même. Les droits de 1789, dit Claude Lefort, sont des droits de relation, qui mettent en relation les individus entre eux. La liberté d'expression, c'est mettre les individus en relation les uns avec les autres. La liberté d'aller et venir, ça émet évidemment les individus les uns avec les autres. Le droit pour les citoyens de participer à la confection de la loi, ça oblige les citoyens à se mettre en relation avec les autres. Donc les droits de l'homme sont des droits qui mettent en relation les individus entre eux et qui créent quoi ? Ce que Habermas va appeler l'espace public.
Un autre philosophe.
Celui-là. Donc qui va créer cet espace public où les gens vont se rencontrer pour délibérer et exercer leurs droits. Et c'est ça, je crois, qui fait la démocratie, beaucoup plus que le référendum. Ce qui fait la démocratie, c'est que les gens, les grands théoriciens de la démocratie directe, ne parlaient pas de référendum, ni d'initiative citoyenne. Les théoriciens de la démocratie directe parlaient de l'agora, hein, de la place publique, des citoyens qui vont sur la place publique, qui délibèrent, qui échangent, qui s'engueulent, qui modifient leurs opinions, à partir de la discussion. C'est ça, si vous voulez, la démocratie. C'est la délibération.
Dans les pays d'Europe de l'Est, Paul Gradvol, qu'en est-il par rapport à ces questions ? Où en est la discussion ? Et, disons, les doctrines formulées, par exemple, en Hongrie, par Viktor Orban.
Alors, premier point qui est très intéressant, on a évoqué Karl Marx. Finalement, j'en viens à me demander si Viktor Orban ne serait pas un marxiste, d'ailleurs plutôt tendance staline que Marx lui-même, au sens où sa critique du formalisme rejoint des choses qu'on avait entendues en d'autres temps. Et ce qui est, à mon sens, particulièrement intéressant pour la Hongrie, mais pas seulement pour la Hongrie, c'est cette fascination qu'il y a à l'éradication des barrières formelles pour que le pouvoir puisse agir librement. La deuxième chose qui me semble extrêmement intéressante, c'est la souveraineté nationale vue comme règle absolue et preuve exclusive de la liberté. Et là encore, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que là, il y a une vraie différence avec les années 30. Hein, on fait toujours la comparaison. Mais dans les années 30, il n'y avait pas d'Union européenne. Il n'y avait pas ce cadre même du Conseil de l'Europe pour le respect des droits de l'homme. Et aujourd'hui, on l'a vu avec Theresa May. Theresa May qui était opposée non seulement à l'Union européenne, mais aussi à la Cour de sauvegarde des droits de l'homme à Strasbourg, parce que ça forçait l'Angleterre à ne pas pouvoir pratiquer la torture contre les terroristes. C'était ça qui était dit tout à fait officiellement. Et ça nous renvoie à un deuxième élément qui me semble particulièrement important. On a évoqué la crise des migrants. La crise des migrants, c'est quoi ? C'est le fait de savoir si on exerce cette solidarité interhumaine et comment on l'exerce. Pour ce qui est des années 30, et ça a été remarquablement dit par Dzovinar Kevonian, notamment lors d'une émission de notre ami Emmanuel Laurentin mercredi dernier, autour des questions de réfugiés et de droits de l'homme, eh bien, on se rend bien compte, quand on lit cette historienne, que dès cette époque-là se posait la question très clairement de qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui, aujourd'hui, en termes d'aujourd'hui, meurent en Méditerranée. Et là, on a un discours du côté de Orban, mais aussi du côté des Polonais, qui pourtant ne voient personne qui arrive de là-bas, dire non, il faut refuser cette solidarité fondamentale au nom de la souveraineté et de la démocratie.
Dominique Rousseau.
Oui, alors, d'abord, crise des migrants. Pour moi, il n'y a pas de crise des migrants. Il y a une crise de la démocratie. Les gens fuient leur pays parce que leur pays ont une crise économique ou une crise démocratique. Pensez au Venezuela, tous les Vénézuéliens qui partent en Colombie ou au Brésil. Pensez à ceux qui viennent en France, c'est parce qu'il y a la guerre en Syrie, c'est parce que il y a le non-développement en Afrique que les gens viennent. C'est pas une crise des migrants, c'est une crise de la démocratie et une crise du système économique libéral qui étouffe ces populations et qui fuient. Donc là aussi, faisons attention à ne pas nous faire avoir par les mots, en quelque sorte. Hein, crise des migrants, donc on est contre les migrants, les réfugiés, etc. Non, c'est une crise du système économique libéral et d'une crise de la démocratie dans les pays d'où les personnes fuient. Sur l'autre question, ce qui est important, je crois, si vous voulez, c'est de mettre en avant l'importance de l'intervention des citoyens dans la fabrication de la loi. Et à mon avis, ça passe davantage par la création de ce que j'appelle des assemblées primaires de citoyens, c'est-à-dire des réunions dans les départements, des assemblées, des citoyens qui vont venir délibérer sur les politiques publiques. Je pense que ce que les Gilets jaunes demandent, c'est davantage de parler, de délibérer, d'échanger, que d'à nouveau voter. Est-ce que vous croyez que le référendum du Brexit a réglé l'affaire ? On dit le référendum, c'est bien parce que ça permet de trancher. Ça a tranché la question
pas complètement, semble-t-il.
En Angleterre. Mais regardez, par exemple, en Colombie. Hein, en Colombie, le gouvernement signe un accord de paix avec les FARC, le soumet au référendum, et le peuple dit non à l'accord de paix avec les FARC. Pepe Grillo, le leader du mouvement 5 étoiles, a eu une phrase absolument extraordinaire lors du référendum en Italie. Il s'est adressé aux Italiens, en disant, écoutez, Italiens, vous allez voter. Ne votez pas avec votre cerveau, parce que le cerveau fait commettre des erreurs. Votez avec vos tripes. Vous avez là la définition basique du populisme.
Merci Dominique Rousseau. Je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et merci à Paul Gradvol. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lorraine.